franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre et bonjour à tous. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Il s'agit là, vous l'avez reconnu, du premier quatrain.
Dormeur du Val.
Du Val de Rimbaud, un sonnet qu'ont appris des générations d'écoliers. Et c'est à ce sonnet qu'a d'emblée pensé le blogueur Didier Paubel, quand il a découvert horrifié la photo du petit corps d'Elan, le visage enfoui dans le sable. Certes, écrit-il, ce n'est pas un trou de verdure où chante une rivière. Il n'y a pas le soleil de la montagne fière qui, lui, il n'y a pas non plus de soldats jeunes, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu. Mais sur cette photo, Elan était, lui aussi, un dormeur. Un dormeur qui éveille nos consciences, notre dormeur du mal. De ce mal qui s'appelle l'impuissance ou l'indifférence, les parfums, poursuit-il, ne font plus frissonner sa narine. Mais c'est nous tous qui avons aujourd'hui deux trous rouges au côté droit, pourvu que cette soudaine compassion ne sombre pas aussi vite qu'elle a surgi. Inquiétude légitime. Mais il semble pour l'heure que la compassion soit toujours d'actualité, même plus que jamais, si l'on en croit le Parisien aujourd'hui en France, qui fait sa une sur l'élan des Français solidaires face à la tragédie humanitaire qui se joue actuellement et face à l'immobilisme des États, des associations et de simples citoyens multiplient les initiatives pour venir en aide aux migrants. Toutes les structures d'aide disent avoir reçu cette semaine une foultitude de coups de fil de personnes demandant ce qu'elles pouvaient faire, des personnes bouleversées par l'image du petit Syrien mort noyé en tentant de fuir à la fois la guerre et son pays. L'opinion se retourne, constate Antoine Vaccaro, président du Centre d'études et de recherche sur la philanthropie. Sous-entendu, la solidarité serait en train de s'imposer face à l'égoïsme. Certains proposent des dons, de l'argent, des vêtements et d'autres se propose pour devenir famille d'accueil. Vincent Montgaillard a assisté jeudi soir à une réunion d'une association d'entraide à Paris, laquelle va lancer une plateforme destinée à mettre en relation les réfugiés et les bonnes âmes désireuses de les héberger pour au moins 2 semaines. Dans la salle, il y avait une cinquantaine de ces bonnes âmes que mon confrère a rencontrées. Françoise, 60 ans, sans profession, qui vit dans un petit appartement de 42 mètres carrés. Si elle est là, c'est en partie à cause d'Elan. Le petit dormeur du mal. J'ai vu en lui mon petit-fils, confie-t-elle. Il lui ressemble. Et devant la photo, je me suis dit, comment puis-je aider? Et elle a décidé de transformer en chambre sa salle à manger. Assis au premier rang, Marion, consultante, et son mari Eric, ingénieur, tous les deux 29 ans. Ils habitent dans l'Essonne. Et ils vont transformer en cocon une pièce qui jusque-là leur servait de débarras. On voit ça comme une colocation enrichissante, explique-t-il en précisant qu'ils sont heureux de donner l'image d'une France ouverte. En quelques jours, l'association a déjà reçu 11 000 propositions d'hébergement en Île-de-France, nous explique le journal.
Oui, d'ailleurs Frédéric, certains médias veulent eux aussi donner l'image de cette France ouverte.
C'est notamment le cas du Huffington Post, qui propose un petit guide pratique pour venir en aide aux réfugiés. Faire un don en nature, faire du bénévolat, signer des pétitions, ou bien encore participer à des rassemblements citoyens. Le site Rue 89 propose des conseils similaires. Comment vous pouvez aider les migrants qui traversent la Méditerranée? Rue 89, qui a en outre décidé de présenter chaque jour à sa une photo illustrant la situation des demandeurs d'asile. Pas pour se donner bonne conscience, mais au contraire pour rendre très matériel notre mauvaise conscience, explique le patron du site. C'est matérialiser aussi ce qui est une évidence, écrit-il, la question migratoire et celle de l'accueil de ces populations doivent être une priorité publique. Il est fou et infâme qu'elle n'en soit pas une. Une priorité politique, l'Europe, cette semaine, semble enfin l'avoir compris depuis la photo de notre petit dormeur du mal. Enfin, la prise de conscience, titre ainsi Sud-Ouest à sa une. Photo de migrants coincés en Hongrie derrière des barbelés les dernières heures semble avoir provoqué un électrochoc, commente le quotidien. Mais la crise persiste entre les partenaires européens divisés sur un système de quotas, système prôné même s'ils ne disent pas son nom, à la fois par Angela Merkel et par François Hollande. L'Europe, sous tension, reste divisée, confirme le télégramme, tandis que l'Union constate que l'Europe commence à bouger. Elle commence à bouger, en effet, en demandant aux États membres de partager équitablement l'accueil des réfugiés. Mais ce matin, dans la presse, les éditorialistes sont assez peu confiants. L'Union européenne parviendra-t-elle à apporter enfin une réponse à la hauteur des enjeux d'une crise migratoire majeure? Rien n'est moins sûr, répond Dominique Garraud dans la Charente libre. Même scepticisme chez Christophe Bonnefoy du journal de la Haute-Marne, qui déplore que pas mal de dirigeants de nos pays occidentaux aient beaucoup de mal à laisser de côté leur égoïsme. Et puis notre François-Régis Hutin dans Ouest-France, la solidarité, si elle doit s'exercer dans l'accueil et la compassion, doit aussi se constituer politiquement pour traiter en commun les causes de ces terribles exodes. Confirmation de Philippe Gély dans le Figaro. La démarche des quotas a d'autant moins de chances d'aboutir qu'elle ignore superbement les causes du problème. Sachant que parmi les causes, il y a le groupe État islamique qui sème le chaos et la terreur dans une partie du monde arabe.
Un groupe qui n'a cessé de gagner du terrain malgré l'action menée par la coalition des armées occidentales.
Des armées qui du coup s'interrogent sur leur stratégie. Aujourd'hui, certains, de plus en plus nombreux, promettent de changer de tactique, prônant d'envoyer des hommes au sol. C'est ce que nous explique ce matin le Figaro, dans lequel Georges Malbruno fait le point sur l'état des troupes de l'organisation djihadiste. Un an de bombardement ne l'a pas ébranlé. Entre 20 000 et 30 000 combattants dispersés entre la Syrie et l'Irak. C'est-à-dire autant qu'il y a un an au début des frappes de la coalition. Cette récente estimation des renseignements américains souligne l'incroyable résilience du groupe État islamique. En 12 mois pourtant, quelques 10 000 djihadistes auraient été tués, mais le groupe en a attiré à peu près autant, venus de quelques 80 pays, et grâce à leur omniprésence sur les réseaux sociaux, les volontaires arrivés en Syrie et en Irak peuvent toujours actionner des djihadistes sédentaires en Europe ou ailleurs. Depuis la perte de Tikrit en mars, l'organisation n'a pas subi de défaite majeure en Irak. Au contraire, elle a pris le contrôle de Ramadi, tout en gardant Fallujah ou Mossoul. Au-delà de son califat, elle peut d'ailleurs compter aussi sur de nouveaux ralliements. Une branche saoudienne est née. Au Yémen, s'est également implantée une branche de l'État islamique à la faveur de la guerre qui oppose miliciens chiites à une coalition hétéroclite. Au Sahel, des brigades se rallient régulièrement à l'étendard noir de Daesh. Enfin, à Gaza, les djihadistes mordent sur le mouvement palestinien Hamas qui doit gérer un territoire coincé entre Israël et l'Égypte. Bref, conclut Georges Malbruno, il y a urgence à couper les têtes de l'hydre djihadiste et ce, ajoutons-nous, pour éviter que d'autres petits garçons connaissent le sort d'Eilan, et ce pour éviter d'autres petits dormeurs du mal.
Dans les journaux, on parle également de politique nationale avec deux rendez-vous qui se tiennent ce week-end.
Illustration à la une de Libération, une coupée en deux, photo de Marine Le Pen en haut, forte malgré le désordre, et en bas une photo de Nicolas Sarkozy, fragile malgré l'unité, tout est dit ou presque. L'université d'été du Front National à Marseille, Marine Le Pen fera tout pour que son père ne vienne pas perturber le rassemblement, mais lui compte bien se faire entendre. L'université d'été du parti Les Républicains à la Baule, avec un unique objectif, que tout le monde fasse un grand sourire, on range les couteaux et on fait une belle photo de famille. C'est ça le projet. Dans la presse, vous aurez également des nouvelles du groupe Canal+, Bolloré, qui continue à faire le ménage. Les Guignols, encryptés désormais, et Hachao PPD finissent sa marionnette. Et puis dans le Parisien, vous lirez enfin qu'une nouvelle école va ouvrir lundi prochain à Paris. Et également à Orléans, une école de sabre laser. Ça n'est pas une blague, ce sont évidemment des fans de Star Wars qui créent cette nouvelle école. Il y a déjà 100 personnes inscrites. Oui. Les sabres laser, peut-être que ça aurait fait rêver notre petit dormeur du mal.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.